Panorama économique.
Bonjour messieurs, dames, bienvenue à Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi, dont voici les titres avant de commencer. Les pauvres payent mieux l'impôt à Kinshasa que les riches, c'est la leçon que l'on peut tirer du bilan de la campagne 2012 de l'impôt foncier clôturée mercredi à Kinshasa. Bilan 2012, près de 300 millions de francs congolais collectés sur 7 milliards attendus. Transparency International a publié ce mardi 3 décembre l'indice de perception de la corruption pour l'année 2013. La RDC est classée 154e sur 177 pays cotés. Le pays a ainsi gagné 6 places par rapport à l'indice de 2012. Selon le rapport de Transparency International, les pays perçus comme les moins corrompus de la planète sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande qui occupent la tête du classement. La frontière de Bunagana, l'une des plus importantes du Nord Kivu, à nouveau ouverte au trafic depuis mercredi. Il faut rappeler que cette fermeture était une décision du gouvernement congolais suite à l'occupation de Bunagana par les rebelles du M23. Merci de nous rester fidèles. Panorama économique reçoit pour vous aujourd'hui M. Midagoudon Deogracias. Il est président de la structure Réinventant notre économie. On va le découvrir ensemble dans cette émission. Monsieur Midagou, bienvenue à Panorama économique.
Merci beaucoup.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le premier dossier de la semaine, le lancement mercredi à Kinshasa de la campagne fiscale de l'impôt foncier 2013 a coïncidé avec la clôture de la campagne 2012. Cette campagne 2012 a récolté 300 millions de francs congolais sur plus de 7 milliards attendus. C'est un résultat minime au regard des prévisions, a reconnu le coordonnateur de la cellule financière et fiscale de la ville de Kinshasa. Cependant, ajoute-t-il, 300 millions, c'est mieux que 50 millions de recettes auparavant. La commune de Makala est en tête de liste de communes qui ont mieux payé l'impôt foncier en 2012. Suivez plutôt cette interview que nous avons eue avec M. Emmanuel Matadi, le coordonnateur de la cellule financière et fiscale de la ville de Kinshasa.
L'impôt foncier porte sur les propriétés foncières et immobilières, c'est-à-dire si vous avez ce que nous appelons une parcelle ou avec 100 maisons, bien vous êtes redevable de cet impôt. Chaque année, vous devrez payer un montant donné au trésor de la ville de Kinshasa.
Comment vous le calculez, ce montant payé?
Il y a un arrêté provincial du gouverneur qui catégorise les propriétés selon qu'elles sont situées dans les localités. Premier rang, pensez ici à la Gombe, Limité industrielle et résidentielle, Binza par exemple, Pigeon, ainsi de suite, Ipène. Et deuxième rang, pour certaines communes, pensez ici au quartier Salongo par exemple. Troisième rang, pensez ici à Matete. Et quatrième rang, nous avons pratiquement tout le reste, Kisenso, Kimbanseke, Makala et ainsi de suite. Pour le quatrième rang, c'était 5000 francs congolais. Donc les gens qui habitent le Bumbu, le Kimbanseke, le Kisenso, c'était 5000 francs congolais. Pour les localités de troisième rang, c'était 25 000. Deuxième rang, 50 000. Mais on a gardé le mesurage pour les premiers rangs, c'est-à-dire pour Gombe et ainsi de suite, mais on n'a pas réalisé une grande recette dans cette catégorie-là.
Monsieur le coordonnateur, quel bilan vous pouvez faire alors de cette campagne 2012 que vous venez de clôturer? Est-ce que ça vous encourage de lancer la campagne de 2013 et poursuivre 2014-2015?
Oui, on a trois résultats principaux. Sur le plan purement financier, la recette a été très encourageante. On est arrivé pratiquement à environ 300 millions de francs congolais, alors qu'avant cette campagne, les personnes physiques ne payaient qu'aux environs de 50 millions. De deux, nous avons maintenant un répertoire qui va jusqu'à 160 000 contribuables identifiés avec nom et adresse. Et de trois, la sensibilisation de la population par rapport au civisme fiscal en général et à cet impôt a vraiment porté du fruit, parce que maintenant l'impôt foncier est devenu vraiment un refrain sur les bouches de tous les Quinoises et Quinois.
Donc si tous les Quinoises et Quinois savent ça, on parle avec autant de parcelles qu'on a dans la capitale, les recettes restent encore minimes.
beaucoup. Les recettes effectivement restent minimes par rapport aux prévisions parce qu'on avait prévu réaliser environ 7 milliards. Mais je dis tout à l'heure que les premiers rangs n'ont pas payé. Or, la Gombe-Sel pouvait nous apporter déjà plus de 4 milliards.
Et c'est là où sont logés voilà. de grandes personnalités de ce pays qui refusent de payer l'impôt, justement. C'est par là que doit jouer beaucoup le civisme fiscal.
Le rapport final a fait une proposition au gouvernement provincial, c'est celle d'instituer une journée, paiement impôt foncier pour tous les membres des institutions politiques nationales et provinciales résidant à Kinshasa, et l'installation des guichets bancaires dans leurs institutions. Parce que, vous voyez, une commune telle que Makala, qui se retrouve être enclavée sans pratiquement beaucoup d'infrastructures, mais elle a été un grand exemple. Elle s'est située pratiquement la première, vu considérant la proportion des gens qui ont été identifiés. Donc, il faudrait que des communes comme celle-là puissent bénéficier, si vous voulez bien, d'une impulsion qui vienne des autres communes, comme vous dites, où sont installées toutes nos institutions et même où habitent les
grandes personnalités,
c'est-à-dire ministres, députés nationaux et provinciaux.
Voilà, retrouvons à présent dans le studio de Panorama Économique notre invité, M. Midagou Deo Gracias. C'est avec lui que nous allons commenter, analyser l'actualité de la semaine. L'élément était long, mais l'intérêt c'était vous permettre de rentrer dans le vif du sujet. L'impôt foncier, la campagne 2012 se clôture sur une note comme un bilan de 300 millions de francs congolais récoltés sur les 7 milliards qu'on attendait. La ville, la commune de la Gombe, ajoutée à cela limitée, Ngalima, qui sont dans la catégorie 1, n'ont pas été de bons élèves, ils n'ont pas bien payé l'impôt.
Oui, exactement, mais je verrai cette question sur deux angles. Hein. Je verrai d'abord par rapport à la citoyenneté, à la culture fiscale. Je pense que certains contribuables n'ont pas compris que la fiscalité et le paiement de l'impôt n'étaient pas une option, mais c'était une obligation. Mais d'un autre côté, je dirais aussi le dysfonctionnement du système fiscal, parce que en tant qu'éditeur du magazine Congo Fiscalité, nous avons toujours décrié que le système fiscal suintait de partout. Alors, je ne serais pas étonné de voir qu'au niveau des vérificateurs, que, étant donné que c'est une commune qui est très importante en matière de valeur, que certaines choses se passent à ce niveau. Donc, il faudrait aussi renforcer les mécanismes de perception et d'encaissement des recettes.
C'est que, bon, on s'est posé la question, nous, bon, on s'est dit, est-ce que ces agents, ces petits agents de l'administration fiscale sont revêtus de ce pouvoir pour aller demander à un ministre, par exemple, dont l'habitation est installée à la Gombe, de payer son impôt. Là aussi, ça pose un problème.
Oui, certains payent, certains, d'autres ne payent pas. Comme je vous disais, certains payent et l'argent n'arrive pas parce que le système fiscal soigne de partout. D'autres se croient au-dessus des lois et refusent carrément de pouvoir payer. Et ça, c'est un problème d'éducation civique. Comme je vous disais, le paiement de l'impôt est une obligation que les citoyens doivent comprendre et les politiciens, malheureusement, devraient montrer l'exemple. Encore faut-il reconnaître que la ville, aujourd'hui, de plus en plus, est dessertée par les Congolais. De plus en plus, ce sont les étrangers qui sont propriétaires de tous ces immeubles. Donc, il faudrait voir ça dans les deux sens.
Monsieur Deo Gracias Midagou, nous vous gardons le temps d'aborder ce deuxième sujet de la semaine. La Banque africaine de développement tient à la réduction durable de la pauvreté en RDC, cela par la création d'emplois décents.
Cette institution financière a présenté mardi, devant les organisations de la société civile, ses 5 grandes priorités pour y parvenir. Elle a parlé entre autres du développement des infrastructures, du secteur privé et de la gouvernance. Selon le représentant résident de la BAD, la stratégie pour les 5 ans à venir nécessite la mobilisation d'environ 1,5 milliard de dollars américains au plus par rapport à la précédente. Écoutez Valentin Zongon.
Ce pays a des dotations exceptionnelles au niveau de ses secteurs productifs et cependant, vous pouvez voir qu'il y a des difficultés de chômage, de pauvreté, de conditions de vie. Et donc la stratégie de la banque a été définie sur la base de l'ensemble de ces défis et du potentiel de ce pays-là. Donc nous intervenons essentiellement pour appuyer les efforts du gouvernement en matière de dotation en infrastructure infrastructures rurales, pistes rurales, navigation sur le fleuve, énergie électrique, pour donner au pays la capacité d'organiser ces communautés autour des pôles de croissance qui ont été définis par le gouvernement et qui ont besoin de ces infrastructures-là pour fonctionner de manière optimale, mais également de se relier à ses 9 voisins pour commercer, pour faire des choses ensemble. Nous avons également des volets d'appui à la gouvernance, à la capacité de l'État à piloter l'économie. La stratégie précédente qui a été exécutée entre 2008 et 2012 a mobilisé qui va de 1,5 milliard de dollars des États-Unis. Vous savez que ces financements-là viennent d'un guichet de la banque qui s'appelle le guichet du Fonds africain de développement, qui a une reconstitution triennale. Nous osons espérer que pendant les 5 années à venir, nous allons mobiliser l'équivalent de ce que nous avons été capables de mobiliser au cours de la stratégie précédente, sinon plus.
Voilà, créer des emplois décents pour lutter durablement contre la pauvreté en RDC, pourquoi pas en Afrique. C'est ça la stratégie que définit la Banque africaine de développement. Monsieur Midago, un commentaire?
Oui, c'est une très très bonne stratégie. Vous savez, la BAD, c'est une institution très crédible qui, aux côtés du gouvernement, aide justement les politiques économiques et financières à pouvoir mettre en place. Je partage aussi l'idée de renforcer les infrastructures, parce que si le pays peut être relié de bout en compte, je vous rassure que les Congolais lui-même va pouvoir développer des activités par rapport au travail. Mais si je devrais peut-être ajouter une petite nuance, c'est que au jour d'aujourd'hui et face à la vocation économique qui est notre pays, il faudrait plus penser, au lieu de pouvoir à des emplois, d'amener le Congolais citoyen à devenir un créateur de richesses.
Cela veut dire?
Parce que nous sommes condamnés par les ressources du sol et du sous-sol dans lequel nous sommes héritiers. Et cela appelle de nous une économie de transformation par le business, par l'entrepreneuriat, par la grosse entreprise. Et le Congolais devrait plus regarder dans le sens de pouvoir être un propre créateur de richesse qu'être un demandeur d'emploi.
Et voilà, on prend le troisième et dernier dossier dans cette série de l'actualité, de la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Un nouveau rapport de Transparency International publié mardi 3 décembre sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2013. La RDC est classée 154e sur 177 pays cotés.
Le pays gagne ainsi 6 places par rapport à l'indice 2012. Selon le rapport de Transparency, le pays perçus comme le moins corrompu de la planète sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande qui occupent la tête du classement. À l'autre extrême, l'Afghanistan, la Corée du Nord donc, la Somalie sont considérés comme les nations les plus corrompues. Onésime Moukandila nous en parle.
Les pays africains les mieux placés sont le Botswana 30e et le Cap-Vert 41e. Les pays d'Afrique centrale sont plutôt mal classés. Le Cameroun ex-aequo avec la République centrafricaine occupe la 144e place. La RDC ex-aequo avec le Congo occupe la 154e place. Le Tchad occupe la 163e place et le Soudan l'avant-dernière place. Basé sur l'opinion des experts, l'indice mesure la perception de la corruption dans le secteur public dans différents pays à travers le monde. Il attribue le score nul au pays perçu comme hautement corrompu et 100 à celui qui apparaît comme étant le plus transparent. Le rapport note qu'aucun pays classé n'a atteint un score parfait et s'inquiète de la propagation de la corruption. En effet, plus de 2/3 des pays classés ont obtenu moins de 50 points, ce qui les classe dans la fourchette des pays où la corruption est endémique. Reconnaître le problème de la corruption n'est qu'une étape, estime Transparency International, qui recommande aux dirigeants du monde de transformer les plaidoyers contre la corruption en action concrète.
Lutte contre la corruption en RDC, monsieur Deo Midagou, le chemin est encore long, le chemin à parcourir, il est encore long.
Bon coup de chapeau pour le gouvernement pour ces 6 places de gagner. C'est aussi l'occasion de rappeler que le président, à l'issue des concertations, avait émis le vœu de pouvoir instituer un conseil spécial en charge de la corruption. Espérons que cela va envoyer un message important, non seulement au sein de l'administration publique, mais au sein aussi des opérateurs économiques véreux, habitués à la facilité. Mais je voudrais aussi signaler, dans le cadre du processus de création d'entreprise et dans le cadre du processus d'investissement, qu'il est aussi un goulon d'étranglement en matière de corruption. Et je pense que le gouvernement devra exiger à ce niveau-là de voir plus clair et de comprendre comment les choses. Arriver à extirper les comportements, les mauvaises attitudes qui font déshonneur à la République quant au processus de création. Il est toujours étonnant et malheureux de constater que les opérateurs économiques, lorsqu'ils veulent venir investir dans notre pays, sont obligés de laisser 40 ou 50% de leur capital pour pouvoir investir. Il est toujours aussi malheureux de voir qu'en tant qu'entreprise et en tant qu'avocat, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises étrangères à venir s'installer, il est toujours difficile de voir qu'un politique, un général vous recommande un de ses cousins qui, en plus ni moins, a les compétences pour occuper le poste, mais dont on est obligé de pouvoir faire pour pouvoir s'exploiter et s'installer dans ce pays. Je pense que tout cela sont des barrières, sont des taches noires qui ne nous permettent pas de remettre la RD Congo sur l'orbite des nations crédibles.
Mais alors, selon vous, 6 places gagnées, quels peuvent être les éléments qui ont concouru 2012-2013, selon vous?
Je pense qu'avec le nouveau gouvernement, Monsieur Matata et le président Kabila lui-même, je pense qu'un message a été envoyé qu'il y a une volonté de faire. Je ne dirais pas que les choses vont bien, nous sommes au niveau de notre association, nous nous plaignons chaque jour de l'environnement des affaires qui doit s'améliorer et qui doit s'améliorer plus vite. Nous nous plaignons aussi que des décisions politiques économiquement plus avantageuses sont rares et sont à compter au bout des doigts. Mais je pense qu'avec l'avènement de ce gouvernement, il y a des messages qui ont été envoyés. Je verrai aussi la création du guichet unique,
de la création
des
entreprises.
Je verrai aussi le nouveau code de douane qui a été fait par rapport à cela. Je verrai aussi certains comportements. Vous savez, en République démocratique du Congo, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas encore le démarrage, ce n'est pas encore le décollage, mais c'est quelque chose qui montre que nous sommes en train d'avancer timidement, mais quelque chose va de l'avant.
Positif. Monsieur Deo, on vous garde le temps d'aborder la deuxième partie de Panorama économique.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le Panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques infos de la semaine en plus bref. Le Fonds monétaire international prévoit pour la RDC un taux de croissance de 9,1% en 2014 contre une prévision de 8,7% faite par la partie congolaise. Une mission de cette institution de Bretton Woods a séjourné à Kinshasa et l'a dit après avoir certifié le taux de croissance économique de 8,3% en 2013. Résultat qui, selon le FMI, permet de soutenir le travail réalisé par le gouvernement congolais pour l'émergence du pays. Une question demeure cependant, pourquoi cette croissance économique n'est pas toujours ressenti directement sur le vécu quotidien de la population.
Au Maniema, le ministre provincial de l'économie et finances a sensibilisé mercredi à Kindu les opérateurs économiques sur les mesures portant interdiction d'exercer le petit commerce par les étrangers en RDC. Un moratoire de 3 mois vient d'être accordé aux opérateurs économiques étrangers évoluant au Maniema afin de prendre des dispositions y afférentes.
Panorama économique, reportage.
Après une année de fermeture, la frontière de Bunagana, l'une des plus importantes du Nord Kivu, a réouvert ses portes cet mercredi. Il faut donc rappeler que cette fermeture était une décision du gouvernement congolais suite à l'occupation de Bunagana par le rebelle du M23. L'importance économique de ce poste frontalier de Bunagana, avec notre envoyé spécial à Bunagana, Gisèle Cage et Mary Bukassa, qui nous en parle dans cet entretien.
Laissez-moi d'abord vous dire que le poste frontalier de Bunagana est situé à 28 km à l'est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Il sépare la République démocratique du Congo à la République ougandaise. Bon, il faut dire que le poste frontalier de Bunagana est très très important car il permet les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Je m'explique. Pratiquement tous nos produits vivriers donc qui sont cultivés ici chez nous, précisément à Rutshuru, c'est notamment le maïs, le sorgho, soja, sont amenés en Ouganda où ils observent une forte demande. De l'Ouganda, les Congolais, je peux dire les commerçants, ou même les Ougandais eux-mêmes, ramènent au pays le produit de première nécessité, c'est notamment du sel, du savon, pour ne citer que cela. Donc avec la reprise des activités à la frontière de Bounagana, les échanges commerciaux entre les deux pays reprennent automatiquement. Mis à part cet aspect de choses, il faut dire que la réouverture de la frontière de Bounagana va aussi permettre au gouvernement de la RDC de maximiser plus de recettes. Selon d'ailleurs Deo Rugwiza, le directeur général de la DGDA, être amputé donc d'un seul poste frontalier, c'est vraiment préjudiciable pour la douane et le budget de l'État, a précisé Deo Rugwiza.
La reprise d'activité va donc générer plus de recettes, mais plus d'une année de fermeture, c'est une longue période, il faut le dire. Cette fermeture a sûrement entraîné un manque à gagner, n'est-ce pas Gisèle?
Tout à fait, un manque à gagner pour l'État congolais. D'ailleurs, Deo Rugwiza a indiqué que l'État congolais a enregistré un manque à gagner d'environ 625 millions de francs congolais par mois, soit environ 7 milliards de francs congolais par an. C'est pour cette raison qu'il a promis en tout cas de tout mettre en œuvre pour arriver à la mobilisation de recettes. Et parmi les stratégies mises en place pour y arriver, tous les agents d'ailleurs de la DGDA qui exerçaient à ce poste frontalier ont été permutés. Donc ça c'était avant le déclenchement de la guerre du M23. Donc le gouvernement a même décidé que seuls 5 services sont désormais habilités à fonctionner au poste frontalier de Bounagana, parmi lesquels la Direction Générale des Migrations, DGM, la Police des Frontières, l'Hygiène, l'Office Congolais de Contrôle. Tous ces services seront sous la coordination de la DGDA et ça sera aussi une occasion pour éviter de catastrophes.
Vous l'avez compris, les activités ont donc repris au poste frontalier de Bounagana. Gisèle Cage, merci pour toutes les informations.
Et merci aussi à vous, Mireille Boukassa. Vous avez quitté le Nord Kivu pendant que cette frontière était fermée. Nous vous le disons, la frontière de Bounagana est à nouveau ouverte au trafic. Un autre reportage de la semaine, c'est cette fermeture de la pêche dans la province du Katanga depuis le 1er décembre. Cette mesure vise à repeupler les lacs et les rivières, mais nous parlons des potentialités en production de poissons au Katanga. C'est avec Denise.
Au Katanga, les rivières et lacs sont regroupés en 6 plans d'eau qui fournissent du poisson à la population. Il s'agit du lac Tanganyika, de la dépression de Kamalondo, du complexe Luapula-Mwero, Lufira-Kiangalele, du lac de retenue d'Enzilo et de la rivière Lulua. Il y a plus de 20 ans, la province avait des grosses potentialités en production de poissons. C'est le cas du lac Tanganyika qui avait une potentialité de 450 000 tonnes de poissons par an, le lac Mwero 12 000 tonnes, la dépression de Kamalondo 15 000 tonnes, le lac Kiangalele 1 600 tonnes et celui d'Enzilo 2 500 tonnes de poissons par an. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pour Claude Ngossa, conseiller en charge de la pêche au ministère provincial de l'agriculture, les potentialités en production des poissons au Katanga sont en baisse.
On n'a plus les mêmes quantités de poissons qu'on avait il y a quelques années. Et ça, sans calcul, on se le voit par le besoin d'importation. Là, ce sont des indicateurs précis et corrects. Par exemple, dans la dépression de Kamalondo, il y a 10 ans, 20 ans, lorsqu'un pêcheur descendait dans le lac de 6 heures du matin à 17 heures, à la sortie, il ne manquerait pas au moins 100 poissons. Mais aujourd'hui, pour la même durée, il ressort avec 10 ou 15 poissons.
Lubumbashi, Denise Maheu, Radio Okapi.
Voilà, retour dans ce studio de Panorama économique avec notre invité. Nous allons prendre le dernier virage de Panorama économique après le reportage. Notre invité, nous vous l'avions présenté, Midago Deo Gracias. Je vous l'avais présenté comme président de la structure Réinventons notre économie. Monsieur Midago, parlez-nous un peu de cette structure Réinventons. Comment nous allons, la RDC peut réinventer son économie?
Ok, merci. Très vite, d'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission qui est très intéressante. Vous savez, depuis des années, le débat national n'a pas été coloré, il a été dans un seul sens, c'était toujours la politique, la politique, la politique. Et grâce à des émissions comme vous, aujourd'hui, nous pouvons rééquilibrer et colorer le débat national en y mettant des sujets aussi importants que l'économie. Alors, l'association Réinventons notre économie est une association qui lutte en République démocratique du Congo pour la participation de plus en plus croissante des nationaux dans l'activité économique. Une autre mission aussi très importante et pas les moindres, c'est de lutter pour l'éradication de tout ce qui est constitué comme une barrière institutionnelle, législative et culturelle à l'entrave au processus de création d'entreprises et d'investissements. Pas seulement étrangers, mais aussi nationaux. Voilà.
Vous avez constaté que de plus en plus, les Congolais sont orientés vers la politique et puis l'économie, on ne s'en occupe pas trop.
Alors, l'association est partie d'un constat, c'est que nous avons constaté que pendant que nous voudrions devenir députés et voulons devenir politiciens ou ministres, les expatriés occupent lentement et sûrement le terrain économique. Et la fâcheuse conséquence, c'est qu'un jour, nous allons nous retrouver locataires dans notre propre pays. Parce que nous voulons tous devenir des députés, des politiciens, pas seulement nous, mais la génération aussi future. Aujourd'hui, on veut devenir député pour frimer, on veut devenir ministre parce que ministre représente l'argent facile représente d'être millionnaire. Alors nous avons pensé qu'il était important de lancer une campagne pour susciter et réveiller la culture d'entreprise dans notre pays.
Et quel est le message justement que vous véhiculez pour que la tendance change un peu ?
Le message important que nous véhiculons, c'est de dire que nous sommes victimes de notre richesse et de nos ressources potentielles qui fait de nous une vocation économique. La vocation de la République démocratique du Congo est économique avant tout. Politique. Léopold II l'avait compris lorsqu'il a nommé le bassin du Congo économique et libre. Frantz Fanon, lorsqu'il a dit que le Congo est une gâchette au centre de l'Afrique, et Stanley, n'en parlons pas, lorsqu'il disait que le Congo ne vaut rien, ne vaut pas un penny sans le chemin de fer. Donc, nous devons comprendre que les richesses que nous avons, nous sommes obligés, héritiers, de pouvoir les transformer en faisant des transformations de valeur afin que nous puissions en profiter pour nous, mais aussi pour les autres. Et quelque chose est en train de se passer, mais il ne faut pas que cela se passe seulement entre les mains des expatriés, des étrangers. Tout de suite, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas contre la participation ou la présence des étrangers en République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers qu'ils soient là, qu'ils viennent individuellement, collectivement ou en partenariat avec des Congolais. Nous les accueillons, ils sont les bienvenus. En ma qualité d'avocat, j'en ai aidé plusieurs à pouvoir s'installer, mais ils sont les bienvenus tant qu'ils respecteront nos traditions, tant qu'ils respecteront notre législation, ils sont les bienvenus. Mais ce que nous fustigeons, c'est la quasi-absence des nationaux congolais dans l'activité économique. Il y a un problème. Et la République ne peut vivre que de politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons nous réveiller et que ceux qui ont la vocation aillent faire la politique et nous représentent, que les meilleurs d'entre nous nous représentent. Quant à nous, citoyens, alors on travaille, reprenons notre économie en main parce que nous avons une nation à construire.
Mais plus souvent, les gens, vous lui demandez de créer l'entreprise, il vous dit je n'ai pas les sous pour le faire. Mais comment pensez-vous concrètement, à travers cette campagne, pousser les jeunes Congolais qui sortent des universités à avoir déjà des projets en tête? Est-ce que, entre avoir l'argent ou entreprendre une démarche dans le sens d'ouvrir une entreprise, quelle est la situation qui vient avant l'autre?
Bon, nous avons essayé d'examiner cette question et nous nous sommes rendus compte que même le peu des Congolais qui possèdent de l'argent ne se lancent pas dans le business. Nous avons une mentalité de consommation au lieu d'avoir une mentalité de créateur de richesses. On nous a parlé de l'environnement des affaires que nous reconnaissons, qui n'est pas au beau fixe et qui empêcherait...
Ça aussi, c'est un autre obstacle.
Nous reconnaissons cela, mais le constat a été le même au niveau de l'étranger. Lorsque vous allez dans les Congolais de la diaspora, nous avons toujours dit que le rôle originel d'une diaspora doit être économique et culturel et non politique. Lorsque vous regardez des capitales comme Bruxelles et Paris, vous vous rendez compte que de plus en plus, les Congolais sont en train de se...
Devenir politiques.
Politiques, de se désengager de l'activité économique. Les petits businessmen qui étaient là-bas se sont transformés en combattants et on a laissé justement l'activité économique entre les mains d'autres personnes qui aujourd'hui sont en train d'occuper Matongé, ils sont en train d'occuper Château Rouge. Et pourtant, ces pays sont des pays où la réglementation et l'environnement des affaires est au beau fixe, mais les résultats et les contre-performances de la diaspora prouvent que ce n'est pas un problème de loi ou un problème de crédit et consorts, mais tout simplement un problème de culture d'entreprise. Nous avons oublié la culture d'entreprise. Vous prenez des pays comme le Nigeria, les premiers sujets de discussion sont l'économie. Et puis vous voyez la politique qui vient après. Au Congo, nous pensons politique, politique. Et je pense que c'est une déformation depuis les indépendances. Nos pères fondateurs avaient rêvé de démocratie et de liberté, mais notre rêve à nous doit être celui de la prospérité économique.
Très bon message, monsieur Deo Gracias Midagou, mais puisque le temps nous impartit est presque arrivé à terme, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous pensons que cette sensibilisation pour la participation des Congolais à l'économie nationale, en tout cas, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sinon, il ne nous reste qu'à vous dire merci. Merci d'avoir été avec nous dans Panorama économique qui touche à sa fin. Merci devant ce micro. C'était Daniel Tambizoni et François Kadima pour vous présenter la rétrospective de l'actualité économique de la semaine, commentée par Midagou Deo Gracias, qui est le patron de l'association Réinventons notre économie. Cette émission est postée sur www.radioocapi.net pendant toute la semaine. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.